imaginez plein d'enfants d'un centre de loisirs qui découvrent pour la première fois les joies du patinage. Imaginez maintenant que parmi eux, il y a une toute petite fille de 5 ans à peine qui deviendra 10 ans plus tard une grande championne. Dans la vie, il y a ceux qui héritent et ceux qui méritent, ceux pour qui tout est facile et ceux obligés de se battre pour y arriver. Les premiers récoltent le travail de leurs aînés, les seconds doivent redoubler d'efforts, au prix parfois de sacrifices. Et si nous mettions la lumière sur ces compagnons de galère, celles et ceux qui ont tout donné pour arriver là où ils sont aujourd'hui? Tout l'été sur France Inter, je vous invite à venir découvrir le parcours de ces combattants, leur chemin tortueux, parvenus là où on ne les attendait pas. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont trouvé enfin leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattants.
Bonjour Mahé Bérénice Meïté.
Bonjour.
Bienvenue. Le bruit des quarts de la lame des patins sur la glace qu'on vient d'entendre, ce pourrait être les vôtres sur la patinoire de Vitry-sur-Seine, par exemple, la ville où vous êtes né et où vous avez grandi. C'est un bruit que vous entendez plusieurs fois depuis maintenant 20 ans. Mais qu'est-ce que vous ressentez en entendant ce bruit-là dans le casque, dans vos oreilles, là, dans le studio de France Inter?
Une grande satisfaction, de la liberté, de la joie. J'ai un grand sourire maintenant, juste d'entendre les lames, ça rappelle tellement de choses, tellement d'émotions, tellement de souvenirs que, ouais, c'est, je dirais, de la joie.
Vous découvrez le patinage artistique à 5 ans à peine, Mahé Bérénice Meïté, grâce au centre aéré de votre école, l'école Joliot-Curie, qui se trouve à quelques mètres à peine de la patinoire. C'est chic, ça, de découvrir la patinoire en sortie de centre aéré?
Bah, totalement. Puis c'est pas une occasion qui est donnée à tout le monde. Donc on a la chance à Vitry de bénéficier d'une telle structure. Ben justement, ils ont voulu nous partager un peu tout ça et nous faire découvrir différents sports, dont le patinage. Et j'en suis tombée amoureuse.
Et à partir de quand vous vous êtes dit à vous-même, mais aussi à vos parents, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir patineuse artistique.
Ben, en fait, c'est venu plutôt parce que mes parents avaient besoin que je m'exprime en faisant du sport. Donc ils m'ont dit, ben, tiens, vu que t'as beaucoup d'énergie, quel sport tu souhaiterais faire? Et j'ai dit le patinage parce que ça me plaisait bien, j'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais, je patinais vite, je tombais, c'était cool. Ils ont été un peu surpris, mais ils m'ont inscrit en pensant que peut-être avec le froid, etc., j'allais rester, allez, 2-3 mois et puis abandonner. Et puis bah 22 ans plus tard, j'y suis encore.
Et donc vous vous inscrivez au club de Vitry-sur-Seine, c'est ça? C'est vos premières années, c'est au club de votre ville?
C'est ça. J'ai fait 20 ans au sein de l'ES Vitry Patinage. Et là, je suis toujours licenciée à Vitry, mais au sein du Vitry Skating Club.
Et votre parcours, justement, est assez impressionnant. Alors, vous êtes championne de France de patinage artistique, pas qu'une seule fois. 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. Vous avez été aussi 10e aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014, 10e aux Mondiaux de Shanghai un an plus tard en 2015, et vous naviguez aussi entre la 5e et la 9e place au championnat d'Europe depuis. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la petite fille de Vitry-sur-Seine que vous avez été?
N'hésite pas à croire en tes rêves et crois en des rêves assez fous. Parce que si tu te limites seulement à ce qui paraît atteignable, tu vas pas avoir la satisfaction. Donc fonce. Et au plus je grandis, au plus je me rends compte que... Bah, j'aurais peut-être pu faire encore plus. Après, c'est pas fini. Je continue ma carrière, mais
c'est
j'aurais
déjà
peut-être
pas mal,
pu
non
faire encore plus si j'avais on m'avait inculqué cette vision de la grandeur un peu plus jeune. Et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aux autres.
It's me, Mario!
Je
Je vous ai demandé de choisir un son qui représente le plus votre enfance, Maë Bérénice Maïté, et c'est celui que vous avez choisi, celui du jeu vidéo Super Mario sur la Nintendo 64, sorti en 1997 et qui rappellera peut-être des souvenirs aussi à nos auditeurs. Vous aviez alors 3-4 ans. Vous avez grandi à Vitry-sur-Seine, Maë Bérénice, commune aux portes de Paris au sud. Quel type d'enfance vous avez eu à Vitry ?
Une belle enfance, je dirais. Je suis enfant unique, donc il fallait m'occuper. D'où le choix de la musique. Les jeux vidéo, c'était un peu mon échappatoire. Je me posais un petit peu dans ma chambre tranquillement et puis je me mettais devant Mario, c'était cool. Sinon, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec des parents qui m'ont toujours soutenue dans tous mes projets, qui m'ont accompagnée aussi en temps, en finance, en énergie, en amour, qui m'ont consolée, encouragée, qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir être la jeune femme que je suis aujourd'hui.
Votre environnement, c'était quoi ? Quartier pavillonnaire, quartier populaire, des barres d'immeubles ? Où est-ce que, matériellement parlant, vous avez grandi ?
Une grande barre d'immeubles.
Et quel quartier ?
Le quartier proche de Barrio Capra. Après, j'ai pas vraiment été à Vitry, où j'ai pas été jouer avec les enfants en bas, etc., parce que j'allais à l'école dans Paris.
Ouais, on y reviendra justement.
C'est ça. Donc du coup, j'ai une connexion, mais pas réellement, mais j'en garde de très bons souvenirs.
Le patinage artistique, c'est un sport extrêmement coûteux. Alors, je sais un tout petit peu de quoi je parle, puisque moi, j'en ai fait, alors évidemment, à un niveau tout à fait amateur, ne dépassant pas les sélections départementales et régionales, mais quand même, je me souviens du coût important des patins à glace, des tenues, de la licence sportive, etc. Comment vos parents ont fait pour financer tout cela ?
Ça s'appelle l'amour et beaucoup de sacrifices. Parce que c'est vrai que pour les paires de patins, c'est 1 200 €, une tunique sur mesure, une entre 1 500 et 2 000, ah oui. Sachant qu'on en a besoin de deux. Faut financer certains voyages, certaines compétitions. Donc
ça peut représenter quoi comme coût annuel, par exemple ?
Là, mon niveau actuel, c'est autour des entre 100 000 et 110 000 €.
Ouais.
Donc c'est conséquent.
Et les sacrifices alors des parents, c'est quoi ?
Beaucoup de temps, d'énergie. Ma maman, notamment, quand j'étais plus jeune, elle a construit son emploi du temps de travail en fonction de mes besoins.
Donc, qu'est-ce qu'elle faisait, votre maman, ou qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle travaille dans l'informatique, mais pour le compte de FedEx.
D'accord.
Je saurais pas vous dire exactement, mais c'est ça. Elle a travaillé longtemps le soir pour pouvoir m'emmener le matin à l'école, me ramener, me permettre d'aller au patinage. Et ensuite, elle entamait avec sa journée de travail. Donc du coup, des fois, elle dormait pas beaucoup. Des sacrifices en termes de vacances aussi, ou de termes familiaux. Parce que du coup, les étés, nous, on les passait pas forcément... aller voir la famille ou entre amis, c'était plus faire des stages estivaux. Et ça, pareil, ça a un coût. Donc, ils faisaient des économies tout au long de la saison pour pouvoir m'emmener à ces stages. Donc, eux, ils découvraient du paysage, donc c'était cool. On était en famille, donc c'était bien. Mais il y a beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas forcément eues.
Vous étiez consciente de cela, à votre jeune âge, de petite patineuse à Vitry-sur-Seine ?
J'en avais conscience un petit peu. Mais je ne réalisais pas l'ampleur des sacrifices qu'ils faisaient jusqu'à un âge où on atteint une certaine maturité, on comprend ce que ça veut dire finalement le sacrifice.
Alors vous avez été scolarisée à 9 ans à l'école des enfants du spectacle, une école parisienne créée en 1924 par le comédien Raymond Rognoni, sociétaire de la Comédie Française, pour permettre à des enfants de concilier vie artistique et sportive aussi, et vie scolaire. Vous y avez fréquenté des élèves issus de milieux sociaux privilégiés, voire même très privilégiés. Comment vous avez vécu, vous, en tant qu'enfant, ce décalage ?
Il n'y avait pas vraiment de décalage, parce que arrivé dans l'école, on était juste tous des enfants qui souhaitions apprendre, se faire des nouveaux amis, découvrir de nouvelles disciplines, de nouvelles cultures, de nouveaux arts. Donc il n'y avait vraiment pas de différence entre les catégories sociaux des uns ou des autres.
Et est-ce qu'on se dit, quand on a la chance, justement, l'opportunité d'être dans un établissement scolaire comme celui-là, et qu'on sait aussi que ses parents font des sacrifices, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois réussir.
C'est vrai qu'il y a on se met une petite pression, mais quand j'étais plus jeune, je le voyais plus comme un challenge. Pour moi, tous les jours, c'était un challenge, un petit défi, donc c'était un jeu. Et c'est ça qui a fait la beauté de la chose, parce que je me suis pas vraiment rendu compte de ce que je réalisais ou de ce que je faisais, tant scolairement que sportivement. Pour moi, je faisais parce que c'était normal, et je me suis lancé un défi, je l'ai réussi. Quel est le prochain défi ?
Maë Bérénice Meïté, je vous ai proposé de choisir un disque avec la demande suivante. Un disque qui a le plus signifié pour vous les galères, les moments de doute, les moments de grandes interrogations aussi. Et c'est un disque d'un artiste américain que vous avez choisi, ça s'appelle Champion. Et on peut entendre les paroles suivantes que j'ai traduites en français. Certaines personnes doivent apprendre, doivent se battre, ils veulent te retenir, envoie-les balader. Maintenant, mon rêve et ma réalité sont simultanés. Progresse à ta guise vers le sommet. Il y a un niveau plus élevé que le haut et tu dois en faire plus. Ne fais jamais seulement avec ce que tu as. On écoute.
Now my dream and reality is simultaneous. I work your own way to the top. If they put you on the pedestal, they could take you off. And there's a higher level than the top. You gotta make more, don't make do with what you got. Check, so go and get it in, sunny. Not everybody gets a second chance of getting money. Or even getting lucky. So you gotta feel the hunger in your tummy. Forget a quote. Some of my family doing good, most doing dope. I'm from Virginia where they hang them niggas by a rope. I used to see my mama getting beat down. Is that the real definition of me now? I fell off, back on my feet now. Headed to the sky, can't even see down. Award shows, I pour my heart out. And people still steady trying to point my flaws out. And I'd be lying if I say it ain't get to me. But I'm a champion, legend,
history.
It's only you believing in you. They turn you into a bastard, then moan when you're rude. Attitude a little out of tune, but that's how champions move. Yeah, so go and get it in, sunny. Not everybody gets a second chance of getting money. Or even getting lucky. So you gotta feel the hunger in your tummy.
C'est Champion de Chipmunk avec Chris Brown.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El Moadem.
Maë Bérénice Meïté, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous ?
Beaucoup de choses. Si on comprend le fond du message qu'elle veut transmettre, c'est pour moi une chanson d'espoir qui me parle énormément. Et qui me donne la force et le courage quand des fois, bah parfois, je l'ai pas.
Maëlle Bérénice Meïté, vous êtes une patineuse noire. Vos parents sont originaires de Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Combien d'autres patineuses noires y a-t-il sur le circuit aujourd'hui?
Alors, qui ont fait les Jeux Olympiques en féminine, je dirais 4, si je dis pas de bêtises.
Sur
30, 40 ans, je pense. Il y a eu Debbie Thomas, Soria Bonaly, Vanessa James et moi. Donc 3 françaises quand même. Et sur le circuit mondial, dans la catégorie féminine individuelle, on est 2 pour l'instant. Star Andrews et moi-même.
Star Andrews qui est
une patineuse américaine.
Et qu'est-ce que ça fait d'évoluer dans un sport où vous êtes en fait une exception, où quasiment personne ne vous ressemble?
Bah honnêtement, j'en ai jamais réellement eu conscience. Après, je pense que c'est ma naïveté, je pense. Pour moi, on est juste tous des patineurs et on regarde pas la couleur de peau ou d'où tu viens ou quelles sont tes origines. On est là pour applaudir les performances des uns des autres, se réconforter quand ça va pas forcément. Et j'ai eu la chance d'être entourée encore une fois de personnes bienveillantes qui m'ont juste accueilli à bras ouverts et qui ne m'ont pas fait sentir différente ou autre.
Et c'est un sport quand même où le physique, la manière de se coiffer, de s'habiller, de se tenir, a une très très grande importance, avec des canons de beauté qui sont des règles non dites en fait. Comment on fait pour rentrer dans ces codes-là quand on est en restant soi-même en fait, et quand on est différente par rapport à la norme?
Ça, à ce niveau, oui, j'ai senti une différence parce que je savais que je rentrais pas dans la norme. Je suis athlétique, assez grande, et j'ai appris avec le temps que vouloir rentrer dans la norme, c'est justement se dénaturer et ne pas réellement trouver sa voie, savoir comment s'exprimer avec ses qualités et ses attributs. C'est quelque chose que bah, forcément j'ai essayé de faire, notamment en me défrisant les cheveux par exemple pour avoir vraiment la queue de cheval, le chignon bien tiré vers l'arrière.
C'est ce que vous faisiez au début?
C'est ça, au début. Maintenant, ça a changé parce que j'ai grandi aussi, j'ai une différente conscience des choses et je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et j'avais envie de m'exprimer tout simplement en étant moi-même.
Est-ce qu'il y a eu un déclic?
Oui, c'est très très bête, mais un jour, j'ai juste demandé à ma maman, mais pourquoi moi mes cheveux ils font pas comme les Jackson 5 quand ils ont l'afro, je comprends pas. Et après, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que c'est parce que justement, on passait par le processus de défrisage, qui était un processus chimique, qui dénaturait la nature de nos cheveux. Et j'avais tout simplement envie de savoir à quoi ressemblaient mes cheveux naturellement. Donc, j'ai juste arrêté de faire les défrisages. Je patine aujourd'hui avec mes cheveux naturels et ça change rien. Je peux toujours faire des chignons, me présenter de manière correcte et faire les performances comme il le faut.
Est-ce que vous avez ressenti à un moment que le regard, à partir du moment où vous avez changé ça, a lui aussi changé sur vous, de la part des autres compétitrices, des institutions du patinage artistique mondial ou même français?
Pas du tout. Je reste Maë, je reste...
Oui, vous le restez, mais ouais. De leur point de vue, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un changement?
Non. Bah, de ce que j'ai pu voir, c'est que je reste Maë, la patineuse, la compétitrice, l'athlète qu'ils ont toujours connue.
Est-ce que c'est ce qui explique que, hormis le journal Le Parisien, qui est donc le journal le plus proche de chez vous, Vitry-sur-Seine, est-ce que c'est ça qui explique qu'il n'y a quasiment aucun portrait de vous dans la presse? Moi, ça m'a vraiment frappé en préparant cette émission de ne quasiment rien trouver sur vous, hormis vos résultats sportifs, évidemment.
Je pense que pour pouvoir intéresser un peu plus la presse, il faudrait qu'il y ait des résultats à la hauteur de la haute performance, c'est-à-dire des podiums européens, mondiaux. Et là, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de lumière faite sur les athlètes. Après, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça.
C'est pas une frustration?
Non, pas du tout.
Pour vous de ne pas avoir cet intérêt-là sur votre parcours?
Non, si jamais ça arrive, bah, c'est une très belle occasion de pouvoir parler de ma discipline, de mon sport, de ma fédération et de contribuer à son rayonnement un peu plus national. Donc, c'est très bien. Si ça n'arrive pas, il y a d'autres moyens de communication qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions en faire la promotion.
Et vous le faites beaucoup d'ailleurs, hein, sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous êtes extrêmement présente, vous donnez des conseils, vous parlez évidemment de votre parcours de sportive. Et ça, c'est le lien que vous essayez de garder, justement, évidemment avec votre communauté, mais avec celles et ceux qui veulent un peu en savoir plus sur votre parcours.
Exactement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, justement, qui nous permettent de communiquer en direct avec notre audience, les personnes qui nous soutiennent et qui nous suivent.
Dans un article qui vous était consacré justement en 2015 par Le Parisien, c'était juste avant les mondiaux de Shanghai, le journal avait filé la comparaison entre vous et Soya Bonaly, cette grande patineuse française, quintuple championne d'Europe. Vous aviez alors répondu à l'époque, je vous cite, « Elle est noire et possédait un profil atypique comme le mien, mais j'aimerais qu'on se souvienne un jour de moi. » Alors, personnellement, moi, je trouve que vos deux styles de patinage sont très différents. Comment vous la vivez, cette comparaison que j'imagine on fait souvent entre vous et Soya Bonaly? Qu'est-ce qu'elle dit, selon vous, cette comparaison-là?
Qu'on a besoin d'un peu plus de diversité pour qu'on puisse reconnaître chaque athlète et ses performances pour la personne qu'il est, et non pas juste... Parce que, après, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur d'être comparé à Souria. Et si je pouvais avoir ne serait-ce que un tiers de son palmarès, je serais ravie. Mais il est important aussi pour moi de me faire ma place et de me faire mon nom, de laisser mon empreinte. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi aussi j'aimerais bien être qu'on se souvienne de moi et qu'on se souvienne de mon prénom. Si je peux faire un parallèle avec Simone Biles, il me semble qu'on avait dit que c'est la Usain Bolt de la gymnastique.
De la gymnastique.
Quelque chose comme ça. Et elle a dit non, je suis Simone Biles.
Et Soya Bonaly, vous disiez c'est un grand honneur. Elle représente quoi en termes sportifs pour la patineuse que vous êtes?
Le courage, la persévérance, la résilience, elle a osé.
Elle a osé, c'est-à-dire?
Elle a osé faire des éléments difficiles, elle a osé
le
sortir...
fameux salto arrière,
exactement,
par exemple.
Le salto arrière, magnifique.
Qui n'a jamais été refait d'ailleurs,
non.
Il me semble. Hein.
Pas à sa manière.
Pas à sa manière.
Oui.
C'est une figure qui est autorisée non, toujours non autorisée.
Elle est interdite et elle a pavé la voie pour nous, les générations actuelles.
Pour préparer cette émission, Maë Bérénice Meïté, je vous ai demandé de nous donner les coordonnées d'un enseignant, d'un prof, d'un entraîneur qui a compté pour vous, quelqu'un qui vous a aidé dans votre parcours. Et ce quelqu'un, eh bien, il s'appelle Annick Lejeune. C'était une de vos premières coaches à Vitry-sur-Seine. Elle a laissé un message vocal pour vous. Tendez bien l'oreille.
J'adresse un message de bon rétablissement à la petite Maë blessée dernièrement. Je voulais lui dire que je suis très fière de son parcours et aussi de l'avoir accompagnée à ses débuts au sein du club de Vitry-sur-Seine et également à ses premières compétitions. J'étais très heureuse d'avoir pu l'accueillir dans mon stage d'été organisé à Dunkerque. Enfin, je l'ai fait, elle avait 6 ans. Son tenue, sa gaieté, ça faisait du bien à tout son entourage et les souvenirs resteront imprégnés à tout jamais, je pense, pour tout le monde. Je sais par ailleurs qu'elle est toujours autant appréciée, et ce, dans tous les domaines. Alors, je lui souhaite un très bel avenir, bien mérité. Ma petite Maë, je l'appelle toujours ma petite, et je l'embrasse très affectueusement. Alors, sa vieille prof, Annick, à bientôt. Bon courage.
Vous avez les larmes.
Oui, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu sa voix.
Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre ?
Beaucoup d'émotions et c'est un honneur d'avoir eu l'occasion de commencer mes premiers pas avec elle.
C'est qui Annick Lejeune pour vous? C'est votre coach évidemment, mais oui. Elle représente quoi pour vous?
Toute mon enfance parce qu'elle m'a accompagnée, elle m'a guidée, elle m'a permis de gravir les échelons. On a fait des compétitions ensemble, on a fait des stages comme elle l'a dit.
Mais oui, elle parle du stage de Dunkerque.
Oui. On a fait un stage à Dunkerque, c'était mon premier stage, je crois.
Vous aviez...
C'était super cool, j'avais 6 ans. Donc, première expérience avec toutes les amies du patinage. On patinait un moment, et puis l'autre moment, on avait du temps pour aller à la plage, pour découvrir d'autres choses. Donc, c'était vraiment une toute nouvelle expérience, et c'était super.
Elle parle aussi de votre blessure, parce que vous avez été effectivement blessée au dernier mondiaux de mars dernier, 2021, à Stockholm. Où est-ce que vous en êtes de votre blessure au talon d'Achille, me semble?
Ouais, le tendon d'Achille. Donc j'ai eu une rupture pendant les championnats du monde. Donc après cela,
après
j'ai
une chute.
Non, en fait, c'est au moment où j'ai fait l'impact pour entamer le saut. C'est là où mon tendon, il a lâché.
Ouais.
Donc du coup, ça a engendré une chute et à la suite de cette chute, j'ai pas pu continuer le programme. Donc le lendemain, j'ai été rapatriée en France. Une semaine après, j'ai été opérée. J'ai été immobilisée pendant 6 semaines. On m'a enlevé le plâtre. Et là, ça fait 3 semaines, bientôt, que je réapprends à marcher. Donc je suis en phase de réathlétisation. Ça se passe plutôt bien.
Qu'est-ce que ça veut dire, une phase de réathlétisation?
C'est-à-dire qu'on reprend tous les basiques. Comment se resservir du tendon, faire un petit peu de mobilité pour éviter les adhérences suite à l'opération.
Donc c'est de la rééducation que
c'est
vous
ça,
faites.
Exactement. De la rééducation en balnéo, avec des kinés, avec des physios. On réapprend à marcher, donc c'est pas toujours facile.
Ouais.
Surtout pour des sportifs, parce qu'on est un peu, voilà, on aime bien bouger, on est habitué à bouger, à repousser nos limites, et là, il faut prendre son temps.
Et alors, c'est quoi votre objectif?
Ça reste les Jeux Olympiques, ça reste les Championnats du Monde en 2022.
Donc les Jeux Olympiques à Pékin en 2022.
C'est ça.
Et les Championnats du Monde qui vont avoir lieu
à Montpellier en 2022.
Hey.
Les championnats du monde en France, ça n'arrive pas tous les ans.
Et
donc
oui.
Ce serait une belle opportunité de représenter son pays sur ses terres lors de cet événement mondial. Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on pack and ride. Ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs. And feeling like a liar at best. You're not alone, like you think you are. You're not alone, like you think you are. We all have scars. I know it's hard. You're not. Thank you.
C'était le titre Hope du premier album Collapsed in Sunbeams, signé de la Britannique Arlo Parks.
France Inter, parcours de combattants, Nassira El Moadem.
Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale, à Mao de Butler de m'avoir aidé à préparer cette émission, merci à Fanny Cohen-Moreau qui la réalise et à Florian Dorimini à la technique. Vous, Maë Bérénice Meïté, vous avez quitté la France pour vous entraîner aux États-Unis. Pourquoi être partie ?
Malheureusement, en France, on a un grand manque de structures sportives qui répondent aux critères de la haute performance. Donc, c'est-à-dire des centres qui regroupent tous les intervenants et tous les matériaux nécessaires pour pouvoir atteindre cette sphère justement de haute performance.
Et, c'est spécifique au patinage artistique ou c'est assez global hein?
Alors, je ne veux pas parler pour les autres sports parce que je ne connais pas en détail.
Ouais.
En tout cas, en patinage artistique et en danse sur glace, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a remarqué de manière systématique.
Et du coup, à la fin, il y a un plafond de verre, on n'arrive plus à évoluer suffisamment pour pouvoir toucher les championnats du monde, etc. Enfin, c'est ça le sujet ?
C'est ça. On peut arriver à atteindre du haut niveau, mais pas de la haute performance. Et du coup, on va chercher à l'étranger une expertise, une expérience différente pour pouvoir justement passer ce cap et espérer un jour faire rayonner au plus haut notre pays.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la société américaine ?
Le fait qu'ils rêvent en grand et le côté business, le mindset très business. J'aime beaucoup.
Le côté, ils voient en grand.
Ouais.
En France, on voit petit.
Ouais. On a peur de rêver grand. On se dit, ça me paraît pas réel, ça me paraît pas faisable. Donc, je vais me contenter de ce qui est dans la sphère du faisable. Et en partant aux États-Unis, je me suis permis de rêver grand. Et en rêvant grand, on a des grandes surprises parce que du coup, on atteint des choses qu'on ne pensait pas possibles ou qu'on ne pensait pas faisables.
Par exemple, pour vous?
J'ai pas encore fait ça. Enfin, j'ai pas encore atteint ça. Mais en tout cas, je suis sur le cheminement d'eux. Mais juste pouvoir trouver des sponsors avec qui je pensais pas forcément travailler. Où je me suis dit, c'est pas possible parce qu'il me manque ci, il me manque ça. Parce que j'ai rêvé grand, parce que j'ai osé, parce que j'ai pas pris forcément les chemins, les sentiers battus. Ben justement, j'ai réussi à avoir des opportunités uniques que des personnes qui ont peut-être un plus grand palmarès que moi n'ont pas vraiment.
Vous pensez que si vous n'étiez pas partie aux États-Unis, vous n'auriez pas eu le parcours qui est le vôtre aujourd'hui de patineuse artistique ?
Je pense qu'il aurait été très différent. Je sais pas si j'aurais acquis la même maturité que j'ai actuellement. Si j'aurais eu la même vision sur le sport et la même ouverture d'esprit que j'ai aussi, je ne sais pas si j'aurais eu ce déclic que j'ai pu avoir concernant la méthodologie d'entraînement, concernant mon implication aussi dans cette carrière sportive, parce que en France, j'avais tendance à me laisser guider. Donc, je suis une grande travailleuse, mais je me laissais guider. Mais je n'étais pas réellement maître de ce projet. Et en partant aux États-Unis, j'ai appris à être maître du projet.
Et ça, c'est la vraie différence entre la manière de coacher les patineurs ici en France et celle de coacher les patineurs aux États-Unis. C'est celle-là la différence fondamentale.
Oui, je pense, parce que en France, c'est un système qui est quand même qui a ses avantages parce que le travail en groupe collectif permet de créer une émulation constante et continue. Donc ça, pour moi, ça a été bénéfique quand j'ai commencé à patiner, que j'ai grandi,
ouais.
Parce que du coup, j'ai évolué avec un groupe d'amis. Par exemple, il y en a une qui va faire un saut, toutes les autres vont le voir. On va être là, ok, je vais être la deuxième à le faire, ou ok, je vais être la première à faire tel saut. Donc du coup, ça crée une émulation positive. Aux États-Unis, c'est plus un système de leçons privées, qui est bien aussi pour acquérir des éléments techniques précis, pour avoir une vision concentrée juste sur l'élève pendant un temps de temps imparti.
Oui.
Mais je pense qu'un bon mélange des deux, ça permettrait d'obtenir quelque chose d'assez explosif quand même.
Et du coup, aux États-Unis, vous réfléchissez déjà à l'après. Vous avez 27 ans aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà dans la démarche de réfléchir à la reconversion une fois que vous aurez raccroché les patins à glace ?
Un petit peu, oui, quand même. Parce que on sait qu'une carrière sportive, c'est assez éphémère. Ça dure pas toute la vie. Que ça dépend pas forcément de nous des fois, le corps, comme j'ai pu le voir au championnat du monde, il décide que tu vas t'arrêter. Donc j'y pense un petit peu, c'est aussi quelque chose que j'ai souhaité garder dans un coin de ma tête tout au long de ma carrière, donc j'ai continué mes études en parallèle du sport de haut niveau.
Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez fait comme études hein?
Alors là, je devrais obtenir mon Master 2 en marketing, spécialité Business Development.
Ah oui, quand même. Donc un Master 2 en ayant continué votre carrière de patineuse de haut niveau.
Oui.
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de ce Master ?
J'ai envie de pouvoir aider les générations actuelles, les générations à venir, dans leur parcours de sport de haut niveau, apporter ma petite touche dans le monde du sport.
Hands on top of your head. Hands on top of your head. Step out of the vehicle and step away from me, all right? Step out and face away. Step out and face away.
Please don't shoot me. Please, man.
I'm not going to shoot you. Step out and face away.
I'm going to get you out of here, man. Please don't shoot me, man. I just lost my mom, man.
Step out and face away.
Ce que l'on vient d'entendre, ce sont les secondes qui ont précédé l'assassinat le 25 mai 2020 à Minneapolis de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, tué donc par un policier blanc, Derek Chauvin. Il a depuis été condamné pour meurtre et vous êtes aux États-Unis à ce moment-là, au moment de ce drame. Quel impact ce drame et toutes les manifestations qui ont eu lieu après ont eu sur la jeune femme que vous êtes ?
Un très grand impact. Je pense que les 6 mois qui ont suivi ce tragique drame, j'étais l'ombre de moi-même. J'étais pas moi. Je ne saurais pas vous expliquer ce que j'ai pu ressentir, mais ça aurait pu être mon père, mon cousin, un ami, un proche, et de voir tant de barbarie d'un être humain à un autre être humain. Pour moi, c'était incompréhensible. De voir que ça a été fait en toute impunité devant du monde, oui. Aussi. Pour moi, ça, c'est une grande incompréhension. Et c'est pas la première personne à qui ça arrive, malheureusement. Ça a été un élément déclencheur pour finalement provoquer l'indignation mondiale des personnes et de faire un focus sur la gravité de la situation, notamment aux États-Unis, concernant la condition des hommes et femmes noirs et de la façon dont ils sont traités par les forces de l'ordre.
Vous aviez conscience de ça avant la mort de George Floyd ?
Totalement. Comme je l'ai dit depuis le début, j'ai de la chance. J'ai toujours été préservée. Je touche du bois. J'ai pas été confrontée à des situations pareilles. Mais c'est un fait réel dont j'avais conscience. C'est le mouvement Black Lives Matter. Moi, je le suis depuis ses débuts. J'ai vu des jeunes enfants qui se sont fait tirer dessus alors qu'ils jouaient tout simplement dans un parc. Ou parce qu'ils mangeaient des Skittles et qu'ils pensaient que c'était une arme. Des choses atroces, j'en avais conscience et j'avais déjà un discours de prêt dans ma tête. Si jamais un jour je me faisais arrêter par un policier, ça, montrer que voilà, j'avais pas d'armes sur moi, que j'étais pas dans une recherche de bagarre ou quoi que ce soit.
Vous avez pensé au discours que vous alliez tenir devant un policier si cela vous arrivait ?
Ouais. En étant seule dans une voiture, je me suis dit, faut montrer que on a envie de collaborer, de coopérer et qu'on n'est pas du tout là pour tenter quoi que ce soit. Donc ouais, c'est une chose à laquelle j'avais déjà pensé.
Et vous en avez fait une vidéo très personnelle, extrêmement émouvante, que vous avez mise en ligne sur YouTube 5 jours seulement après le meurtre de George Floyd. On écoute.
Un genou à terre, car une fois de plus, une vie humaine lâchement volée. Home of the free, land of the brave, mais tu le vois où toi, la liberté. Nouvelle perte, nouveau deuil. Un schéma bien installé. Liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, ils ont tous été tués. Cette couleur si précieuse leur a coûté la vie. Et c'est ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Le droit de vivre, parler, bouger, marcher, communiquer, respirer. Ah, l'égalité. Peu souvent à nos côtés. Aujourd'hui, comme jamais, engagés et unis, ensemble nous venons te chercher. Abuser du pouvoir est un droit. C'est les rois, on s'incline, vous avez gagné. La haine, la violence, l'injustice et les meurtres, mais quand est-ce que tout ça va cesser ? Pourquoi tant de haine et de souffrance infligées à ceux qui n'ont rien demandé ? Des frères, sœurs, pères, mères que vous nous avez enlevés. On étouffe, on suffoque car défilent les images de ces jours où ils nous ont quittés. Des images si violentes qu'elles resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Leur sang coule sur vos mains, mais pourquoi, dites-le nous, est-ce donc ça la conquête vers la gloire ? Un genou sur le cou, un jeune homme sans espoir, par pitié, il nous quitte, dernier souffle d'espoir dans son cœur de la peine, et la vie qui le quitte, c'est trop tard. Enough.
C'était un devoir pour vous, Mahé Bérénice Maïté, de faire ce témoignage, ou bien une nécessité ?
C'était une nécessité, parce que j'ai jamais voulu parler de ce combat qui pour moi me paraissait personnel. Donc J'en ai jamais parlé publiquement ou jamais parlé de ces peurs ou de ces appréhensions que je pouvais avoir, comme j'ai parlé du discours déjà prêt pour si jamais un policier m'arrêtait. Je pense que ça a été la goutte de trop qui a fait que je ne pouvais pas rester silencieuse. Je n'avais pas envie de rester silencieuse non plus. J'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais parce que encore aujourd'hui, je ne trouve même pas les mots pour vous décrire le... Je ne sais pas si c'était de la tristesse, de l'incompréhension, de la colère, de la peine. C'est un mélange de tellement d'émotions que je me suis dit, je vais utiliser ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire l'art, la création, et transmettre mon message à travers de la musique, des paroles qui pour moi ont un sens et qui pour moi me permettront de m'exprimer de la meilleure des façons, sans être vulgaire, sans sortir peut-être d'un certain cadre ou sans avoir de propos qui sont trop choquants ou déplacés.
Les mots que vous utilisez sont extrêmement forts, mais effectivement, comme vous le dites à l'instant, c'est une vidéo où vous utilisez des mouvements artistiques, on vous voit danser, on vous voit voilà être en mouvement comme ça devant la caméra en noir et en blanc. Vous dites que vous auriez dû le faire plus tôt ?
Non, parce que je pense que c'est arrivé à un moment auquel ça devait arriver. Et c'était le moment pour moi de le faire. Le moment aussi pour moi de prendre conscience que c'est pas parce que j'ai pas une plateforme à 100 000 abonnés que je ne peux pas utiliser ma voix pour parler des choses qui me tiennent à cœur. Donc je pense que ça arrivait à point nommé.
Merci Mahé Bérénice Meïté d'avoir joué le jeu, de partager avec nous votre parcours. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et surtout pour votre rééducation. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 14h, pour une rencontre avec un nouveau parcours du combattant.
France Inter, parcours de combattant.
Certains ont dit, ont vu danser dans les rangs et les rues, ont cru dur comme fer que mon cœur était mou, que je chevauchais le fou. Certains y ont vu un refus, ont juré que j'attrapais le ciel à main nue, que j'en faisais des barricades dans la rue.
C'était le titre Regarde de Barbagallo.